Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de me présenter. Je suis Marie-Ève Courchaine, chargée de projet à la Direction de la programmation culturelle. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Ce soir au programme, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Brenda Donlardo pour une conférence intitulée « Le livre de la Renaissance à Montréal ». Cette conférence constitue un complément à l'exposition du même nom, ici à la Grande Bibliothèque, à la Collection nationale au premier étage. Madame Donlardo est professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également auteure de plusieurs livres et articles sur le Moyen-Âge et la Renaissance. D'ailleurs, son édition critique de la légende dorée a reçu plusieurs prix, dont un de l'Académie française. Elle a fondé le groupe de recherche multidisciplinaire de Montréal, de Montréal sur les livres anciens. Elle a également coédité avec Madame Joanne Biron le livre médiéval et humaniste dans les collections de l'Université du Québec à Montréal en 2006. Et elle poursuit ses recherches sur les manuscrits et les imprimés renaissants. Alors, avant de vous laisser en sa bonne compagnie, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones cellulaires et autres bidules susceptibles de causer des interférences à la conférence. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photographies ni d'enregistrer la conférence. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci à Marie-Ève Courchaine pour ses aimables paroles. Je voudrais commencer cette petite présentation en remerciant à nouveau BANQ et tout particulièrement M. Guy Berthiaume d'avoir accueilli avec autant d'enthousiasme et d'intérêt ce projet. Je veux remercier toute l'équipe de BANQ pour l'exposition, tout particulièrement Mme Derouin qui a eu un imposant travail de concertation à faire avec les institutions prêteuses et tous les autres qui m'ont aidée en cours de route. Alors, l'idée de cette exposition a germé lors de réunions avec mon équipe de recherche. Et je pense qu'ils sont dans la salle, je les vois, Richard Vire, Jeannick Auberger, Claire Lebrun-Gouanvic. Nous travaillons sur les imprimés du 16e siècle de la collection ucamienne et aussi les manuscrits médiévaux. Et puis, on s'est demandé, est-ce que cette collection avait une vocation particulière? Une bonne façon de répondre à cette question est de comparer avec d'autres collections. Et c'est ce qui a fait jaillir cette idée de l'exposition des livres de la Renaissance à partir de différents fonds montréalais, publics et privés, et je tiens à les nommer, Bibliothèque nationale du Québec, l'Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Montréal, Université Concordia, la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus au Collège Jean de Brébeuf et le Musée Stuart. Cette exposition sur le livre de la Renaissance réunit près de 200 volumes. Elle va se dérouler sur un an et se déployer en deux volets de 6 mois chacun. J'ai fait un gros effort pour le PowerPoint, mais ce n'est pas encore au point. Voilà. Bon, n'allez pas trop loin, s'il vous plaît. C'est bon. Bon, alors, ça y est, on a un plan ici. 5 zones en 2 volets. Donc, le premier volet qui est actuellement exposé du 14 février au 12 août en 3 zones et le volet 2 dans 6 mois jusqu'en janvier 2013. Donc, ce soir, je vais m'attarder davantage aux premières zones puisque vous pourrez les voir à loisir et nous allons faire un petit sprint pour le deuxième volet, pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend pour les sections historiographie et sciences politiques humanistes et humanisme scientifique. Donc, je vais présenter une sélection d'une 60aine d'artefacts exposés. certains parce qu'ils sont très rares ou très précieux, d'autres parce que ce sont des livres fondateurs sur le plan des idées ou parce qu'ils ont renouvelé méthodes et savoirs et qu'ils marquent ainsi les débuts de la modernité que représente la Renaissance. J'ajoute que, au cours de la présentation, mon collègue Richard Vire sera invité à monter sur scène avec moi pour que vous puissiez profiter de sa science sur l'histoire du livre et de l'imprimerie. Pour profiter de cette exposition, il est important de comprendre comment il a été monté. Ainsi, il aurait été impossible de dresser un portrait chronologique complet du livre de la Renaissance à Montréal, car il aurait forcément été incomplet. Les collections montréalaises ont été réunies par des collectionneurs, des donateurs privés, publics, qui n'avaient jamais le souci de l'exhaustivité, mais elles ont des vocations. Le musée Stuart, par exemple, est la seule institution à avoir autant de livres qui traitent de la querelle des femmes. Même si, par ailleurs, on sait qu'ils ont un fonds très fourni en livres d'exploration et des voyages. Quant à la bibliothèque Osler à McGill, elle est spécialisée dans l'histoire de la médecine et c'est pourquoi on y trouve les œuvres scientifiques de Rabelais et pas seulement ses romans. Et les critères de sélection? Il fallait que ce soit des originaux. Pas d'édition moderne d'un livre ancien, pas de fac-similé. Je voulais montrer le livre comme véhicule de l'humanisme, mais aussi le livre comme artefact, avec ses marginalia, donc ses notes écrites en marge, ex libris, ex dono, voire avec ses marques de censure et parfois des pages excisées ou maculées d'encre. Je ne voulais pas non plus imposer un cadre scolaire, littéraire ou philosophique à cette exposition, mais montrer les collections telles qu'elles avaient été constituées au fil des ans. C'est vrai, il y a des pans entiers de la Renaissance qui n'ont pas retenu l'attention des collectionneurs ou des conservateurs. Ainsi, hormis un ouvrage de Louise Boursier, dite Bourgeois, qui était sage-femme de Catherine de Médicis et qui a écrit ses observations pour sa fille, et qu'on va voir dans 6 mois, il n'existe pas dans nos bibliothèques de Montréal d'édition originale de femmes de lettres de la Renaissance, c'est-à-dire ni de Marguerite de Navarre, ni de Louise Labbé. Par contre, l'exposition montre les éditions de 3 femmes imprimeurs qui se contentent pudiquement d'écrire « Apud Viduam », chez la veuve. Donc, le scénario classique, c'est que la veuve va épouser le chef d'atelier, c'est le cas de figure ici, Jean Moretum ou Jean Moretus, ou bien elle attend que le fils aîné soit assez grand pour reprendre l'officine et son nom disparaît à nouveau. Pourtant, cette veuve a un nom, Roméo Harbour, qui est décédé malheureusement, qui était un érudit à l'Université d'Ottawa, a fait des recherches sur les femmes imprimeurs en France et il en a sorti un volume très épais. Donc, il s'agit ici, c'est une officine d'Anvers, de Jeanne Rivière. Je profite de l'occasion pour faire quelques remarques sur cette page de titre qui est exposée. Bon, c'est tout d'abord un livre d'Antoine Del Rio, un jésuite, qui a fait cette compilation de tragédies latines, donc il y a beaucoup de Sénèque là-dedans. Vous savez que les pères jésuites accordaient beaucoup d'attention au théâtre dans leurs écoles. À preuve, nous avons encore le théâtre du Jésus à Montréal. Et il y a donc sur cette page, cette compilation de théâtre de jésuites, on a aussi la marque de l'imprimeur. C'est un peu le logo à l'époque. On a le tampon du Collège Sainte-Marie avant que ce livre ne soit légué à l'UQAM lors de sa fondation en 1969. J'attire aussi votre attention sur « cum gratia et privilegio », c'est-à-dire on donnait aux imprimeurs un privilège, parfois pendant 6 ans, parfois pendant 10 ans, pour imprimer un livre. C'était pour les préserver des éditions pirates, mais en fait, ces privilèges n'étaient pas très puissants, mais enfin, c'était le début du respect de l'œuvre. Voilà. Mais pour répondre à une question qui m'a été souvent posée, parfois discrètement chuchotée, qu'est-ce au juste que la Renaissance ? La période de la Renaissance européenne peut être résumée à celle de l'envol des débuts de la modernité. Mais où et quand commence la Renaissance ? Cela dépend du pays et aussi du domaine. Pour certains, c'est la chute de Constantinople, prise par les Turcs en 1453. Pour d'autres, ce sont l'invention des caractères mobiles pour l'imprimerie en 1434 par Gutenberg, ou encore le voyage de Christophe Colomb en 1492. Parle-t-on des lettres et des arts ou bien des sciences ? Eh bien, si c'est la littérature, alors c'est Pétrarque dès le XIVe siècle. Mais qui est visé ? Pas tous. Puisque riches et pauvres, hommes et femmes, ne sont pas égaux devant l'accès aux livres imprimés et à l'éducation, qui, dans l'esprit de la restauration des lettres, ne se limite pas à lire dans sa langue vernaculaire, mais à étudier la langue et la littérature grecques et latines, voire à parler le latin, qui, rappelons-le, reste la langue de l'Église ainsi que celle de la diplomatie et des universités. Ce mouvement qu'incarne Pétrarque au XIVe siècle s'étend donc en Italie au cours du XVe et se propage selon le transfert des études, ce qu'on appelle la translatio studii, à la France, puis aux pays de l'Europe du Nord et un peu après en Angleterre. C'est le retour aux sources de l'Antiquité gréco-romaine dans toutes les sphères du savoir qui est le catalyse de l'humanisme, qu'on appelle humanisme chrétien quand il s'applique aux textes de l'Antiquité chrétienne. Ceci va souvent de pair avec une distanciation critique face aux œuvres du Moyen-Âge, même si dans les faits, la Renaissance va continuer à imprimer de ses œuvres. De ce double mouvement naîtront les œuvres des humanistes qui imitent les anciens, mais qui les critiquent aussi et qui aspirent à les dépasser, mus par cet idéal de la dignité humaine, la dignitas humanis, qui met l'homme au centre de sa doctrine et non plus Dieu comme le faisait le Moyen-Âge. Certes, cet appétit de savoir encyclopédique, cette soif de découvrir et de repousser les limites connues du monde géographique, intellectuel, spirituel et scientifique procure un vif sentiment d'exaltation chez les humanistes, créateurs de modèles sociaux nouveaux, de l'artiste, on n'a qu'à penser à Léonard de Vinci ou à Michel-Ange, de l'explorateur, Colomb, de l'intellectuel, il y en a des tas, de l'imprimeur et à ces dynasties d'imprimeurs, les Manus, les Froben, les Griff à Lyon, où l'individu réclame ses droits et où l'homme se déclare libre de forger son destin selon Pic de la Mirandole. Ce mouvement se trouve pourtant brutalement entravé, trop souvent, par l'Église et le pouvoir monarchique, sans oublier par les universités même, car chacun est jaloux de son autorité. D'où les censures religieuses et répressions civiles qui vont jusqu'à lacérer et brûler les livres mis à l'index quand ce ne sont pas leurs auteurs eux-mêmes condamnés au bûcher par l'Inquisition ou le pouvoir politique. Je montre trois images autour de Rabelais. Rabelais médecin, Rabelais romancier, Rabelais épistolier. Elles résument un certain idéal du savoir encyclopédique de l'époque qui réunit, ou en tout cas aspire à le faire, l'homme de science et l'homme de lettres. Comme éditeur des aphorismes du médecin grec Hippocrate, Rabelais est à la fois philologue et médecin. Il est aussi auteur de romans où le haut spirituel et le bas corporel ont tous deux leur place. Il s'intéresse, comme vous le savez, autant à la culture savante qu'à la culture populaire dans ses romans. C'est ce qui nous vaut des passages sur le vaste programme des arts libéraux de l'éducation humaniste de Gargantua, tout comme les passages bien connus aussi sur le choix du meilleur torche-cul, pour conclure, après bien des essais, que c'est un oisillon bien duveteux qui l'emporte, pourvu que le bec soit tourné vers le bas. Quant à la correspondance de Rabelais, elle reflète le culte de l'amitié à la Renaissance, le réseautage humaniste qui n'a rien à envier à Facebook et le désir de faire partie d'une république des lettres. La gravure est intéressante, à mon avis, parce qu'elle montre déjà une conception moderne de l'écrivain. On voit ainsi Rabelais entouré de ses livres et qui prend lui-même la plume pour écrire, ce qui est déjà différent du Moyen-Âge, où c'était plutôt qu'on dictait son œuvre à un secrétaire. En filigrane, il y a aussi un hommage au tableau d'Érasme par Dürer, dont Rabelais disait qu'il était son père et mère, tant l'œuvre érasmienne l'avait influencé. Pourtant, la stature de Rabelais ne l'empêcha pas d'être inquiété par la Sorbonne, qui n'apprécia pas qu'il ait traité ses membres de Sorbonnagre. Alors, le début de l'exposition part avec l'humanisme philologique, car tout part de là. On m'a dit de vous expliquer philologie parce qu'on n'en parlait plus dans les cégeps. Donc, je vais le dire. C'est la connaissance des belles lettres et de l'étude historique des textes à partir des manuscrits transmis. Les philologues, donc, travaillent à l'établissement des textes à partir des manuscrits les plus anciens ou les plus autorisés. Ramenés de partout, comme le fit le cardinal Bessarion au XVe siècle pour des centaines de manuscrits grecs et latins de Constantinople, dont il fit don à la bibliothèque Marciana sur la place Saint-Marc de Venise. Une fois les textes établis, il faut les annoter, en évitant désormais de les gloser ou de faire des interpolations comme au Moyen-Âge. Puis, il faut les faire imprimer et surveiller de près ces travaux d'impression, parfois même jusque dans l'atelier d'imprimerie, où des typographes lettrés, c'est-à-dire qui savent le latin et le grec, manient cette nouvelle technologie venue d'Allemagne, tandis que les enlumineurs, eux, voient leur travail diminuer au profit des artistes qui développent la gravure sur bois, c'est-à-dire la xylographie, et celle sur métal. Ce retour aux sources va nous valoir des éditions ou des traductions de textes anciens grecs et latins. Pour la philologie grecque, on a bien sûr plusieurs éditions qui sont exposées. Je n'en nomme que quelques-unes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de double mouvement. Ici, par exemple, on a l'édition par Marcille Ficin des œuvres du divin Platon. Et l'auteur va par la suite écrire d'autres livres influencés par les idées platoniciennes, et on va parler du néoplatonisme et même du ficinisme, tant Marcille Ficin va mettre sa marque sur son interprétation de l'œuvre. On a aussi la traduction par Jacques Amyot en 1572 des œuvres morales de Plutarque. Vous remarquez l'estampille perforée ici, Bibliothèque Saint-Sulpice. Ce livre est maintenant à BNQ. Il s'agit de l'édition originale, donc importante sur tous les plans. Montaigne disait de cette œuvre que c'était son bréviaire, tant Plutarque avait été pour lui une école pour apprendre à faire des portraits, avoir une autre perspective sur l'histoire et surtout exercer son jugement par la lecture qu'il faisait de son texte. On a aussi cette édition de Lucien de Samosate. Tant de choses à dire, son influence sur le paradoxe qu'on retrouve dans l'éloge de la folie d'Érasme, ainsi que cet humour sarcastique, la critique des historiens, et même une de ses œuvres où on le dit le fondateur de la science-fiction avec ce voyage sur la Lune. Virgile, on en fait plusieurs éditions et traductions. Ici, on a une traduction bilingue, français-latin, donc comme ça, le lecteur peut toujours faire un slalom entre les deux. Et on a plusieurs éditions qui sont faites de Cicéron. Cicéron, à propos duquel on fait d'incessants débats parce qu'il est le modèle de l'éloquence, mais ces imitateurs finissent par être un peu esclaves de chaque parole de Cicéron. D'ailleurs, Érasme a écrit un colloque le cicéronien où il se moque bien de tous ces excès. Mais il reste que l'œuvre est bien sûr importante. comme livre de sagesse et aussi pour tous ses plaidoyers. Je pense que certains parmi vous ont sans doute traduit quelques œuvres de Cicéron dans leur jeunesse. On a aussi une œuvre, Les Métamorphoses d'Ovide, qui a été très importante à la fois au Moyen-Âge et à la Renaissance. On voit que celle-ci a des marginalia imprimées, des marginalia manuscrites. Vous savez que Montaigne lisait dans le texte les Métamorphoses d'Ovide parce que son père tenait à ce qu'il parle tout de suite le latin, donc ce fut sa langue maternelle. Donc Ovide, une grande source d'inspiration et aussi un manuel scolaire. Mais à côté des livres plus sérieux, je dirais, le retour aux sources s'étend aussi au discours amoureux. Par exemple, ces poèmes de Catulle, qui sont reliés avec des poèmes de Tibulle et de Properce, dans ce livre. Ce délicieux poème aux moineaux de Lesbie, Ad Passeram Lesbie, où l'oiseau jadis avait droit à l'intimité de la dame. Cet autre poème à Lesbie, où on lui demande « Dame, basia, mille, donne-moi mille baisers, encore cent et encore d'autres ». Ce poème a enflammé les esprits à la Renaissance. Jean II, en 1539, a même fait un livre intitulé « Basia, les baisers », où il a, pour ainsi dire, inventé le genre des baisers. Cette ferveur s'est communiquée à Louise Labbé, à Pierre de Ronsard, aux autres poètes, qui voulaient chanter, si vous voulez, les joies charnelles sans avoir le poids du péché de la chair. Donc le retour à la poésie de l'Antiquité leur permettait, si vous voulez, cette libération de la parole et du désir. Pour soutenir un tel effort d'érudition, il faut cependant des outils, plusieurs outils linguistiques, tels que les dictionnaires bilingues ou trilingues, des thésaurus, des commentaires sur la grammaire, l'orthographe et la rhétorique ancienne. Bref, les philologues s'intéressent tout particulièrement à la grammaire et à la rhétorique, les fondements des sept arts libéraux. C'est pour cela que vous verrez dans cette section de l'exposition des ouvrages de l'Italien Laurent ou Lorenzo Valla, de Guillaume Budé, de Robert Étienne. Si ces derniers restent à l'usage d'une élite, d'autres sont mis au service des écoles, comme les listes de vocabulaire italien-latin d'Horacio Torcellino à l'usage des écoles jésuites. Ce livre, qui est conservé à Concordia, est fondamental. Il est peut-être moins à la mode que les poésies de Catulle, mais tout de même, pour ce mouvement humaniste, il marque une rupture entre le latin du Moyen-Âge, jugé gothique, barbare, et le latin classique préconisé par la Renaissance, qui aspire à retrouver la pureté du latin d'un Cicéron. Les Elegantia de Valla ont eu une importance capitale sur Rabelais, Erasme, sur plusieurs humanistes, même si les guerres citées de nos jours son importance est primordiale comme réflexion sur la langue et sur son esthétique. Mais en fin de compte, qui veut-on former avec tous ces outils? Des spécialistes ou des généralistes? Le savant polyglotte, selon Rabelais, ou l'honnête homme, comme le réclamera Montaigne dans sa phrase célèbre « Mieux vaut avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Par là, il critiquait la trop grande importance accordée à la mémorisation de son temps dans l'enseignement plutôt qu'à l'exercice du jugement. Les humanistes vont débattre ces questions pendant toute l'époque de la Renaissance et bien d'autres, comme le recours ou non au châtiment corporel. Avec le temps, les philologues ne se voient pas seulement comme les éditeurs des sources classiques de l'Antiquité qui sont capables de corriger, mais aussi comme des commentateurs de la langue de leur temps. Il leur faut aussi créer d'autres types d'outils, comme les recueils de sentences ou de proverbes, pour pouvoir comprendre, mémoriser et réutiliser ces éléments de culture à bon escient. Chose importante et nouvelle, ces ouvrages deviennent le lieu de passage entre le travail de l'humanisme philologique et celui de l'humaniste tout court, car on passe du commentaire philologique grammatical au commentaire subjectif, d'où va émerger un « je » qui s'affirme de plus en plus. Comme commissaire d'une exposition, on a plusieurs choix à faire. Et un de ces choix, c'est à quelle page ouvrir le livre. Et ça, ce n'est pas si évident. Quand on se promène dans une exposition, les livres sont ouverts comme par magie. Mais ce sont des débats de conscience terribles pour les commissaires qui se demandent quelle page serait la plus intéressante si les conservateurs et conservatrices nous autorisent à ouvrir le livre à 180 degrés. Parce que vous vous rendez compte, tous ces livres sont des vieillards multiséculaires et parfois les reliures sont trop sèches ou trop friables pour nous permettre de les ouvrir. Donc, je vous remercie de votre compréhension quand vous regardez ces livres parce que si on veut encore d'autres expositions dans 150 ans, eh bien, il faut faire attention à ces livres. Mais quand on peut ouvrir les livres et c'est le grand bonheur que de les ouvrir, il faut choisir une page. Donc, j'ai choisi pour vous la page Festina Lente. Cet adage, qui veut dire « hâte-toi lentement », est très intéressant parce que, comme à son habitude, Erasme l'explique, donne l'étymologie, montre les emplois, qui l'employait avant lui dans l'Antiquité. Et puis, dans certains adages, il se laisse aller justement à ses commentaires plus personnels. Et ici, il fait l'éloge précisément des imprimeurs humanistes qui travaillent bien, tels Aldemanus, qui a édité les adages, à Venise, et Jean Froben à Bâle. J'attire aussi votre attention sur le fait que ce livre est précieux pour une autre raison. C'est un incunable. Il a été publié en 1499. Ça veut dire que c'est un livre publié avant 1500. Incunable, ça veut dire dans le berceau, dans les langes. Et vous voyez que ce livre a encore conservé ses fermoirs, ce qui est aussi un petit point intéressant. Il faut aussi savoir que les adages d'Erasme n'ont pas servi qu'aux écoliers. On les retrouve sous la plume des plus grands, Rabelais, Montaigne. Montaigne en avait un exemplaire dans sa célèbre bibliothèque qu'il appelait librairie. Shakespeare aussi. Et les recherches ont montré que lui, il a été un petit peu plus paresseux parce qu'il n'a pas eu accès à l'édition intégrale, mais à une sorte d'abrégé que les écoliers avaient. Aussi, Michel ou Miguel de Cervantes s'est aussi inspiré des adages, mais lui, dans une nouvelle écrite dans l'esprit caustique de Lucien de Samosate, dont on a vu la page de titre tout à l'heure, il a fait le colloque des chiens, peut-être que vous l'avez lu, qui est assez drôle, où il met en scène deux chiens qui racontent leur expérience auprès de leur maître, et un se vante d'avoir étudié les adages d'Erasme pendant qu'il accompagnait son maître à l'université. Donc même les chiens à la Renaissance apprenaient les adages. Cette fièvre de travail de correction des manuscrits qui s'était alourdie de fautes de copistes au cours des siècles trouve un puissant auxiliaire dans la nouvelle invention de l'imprimerie qui permet à la fois de fixer un texte et de faire circuler le livre imprimé à plus grande échelle et à une vitesse plus grande que ne le permettait le livre manuscrit. Pour vous faire entrer dans un atelier d'imprimeur, j'invite donc M. Richard Vire, conseiller scientifique de l'exposition Le Livre de la Renaissance à Montréal, ainsi que chef et conservateur des manuscrits à la division des livres rares et fonds spéciaux de McGill, à venir nous dire ce qui se passe ici.
Merci beaucoup, Brenda. C'est une image très typique de l'imprimerie pendant presque 4 siècles. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'intérieur. Et je vais expliquer un petit peu la façon qu'est-ce qu'on voit. À la droite de l'image, on va voir le compositeur qui a un texte devant lui et il est en train de, dans sa main gauche, il a un bâton et il met les caractères de fond un par un. Les textes sont, qu'il met, quand ils sont finis, sont à l'envers et l'inverse. Comme ça, ce n'est pas une question qu'ils prennent un morceau de fond et ils regardent, oh, c'est un E, c'est ça que j'ai besoin. Ils travaillent avec une caisse où les fonds de caractère sont déjà, c'est une caisse normalisée et on sait avant où on trouve les lettres. La deuxième chose à remarquer, mais c'est typiquement de tous les presses avant 1800 qui sont en bois, c'est attaché au plafond parce qu'ils ne sont pas suffisamment lourds qu'ils restent en place s'ils ne sont pas attachés. Quand on travaille avec sur une presse faite de bois, si on ne fait pas attention, si ce n'est pas attaché, mais ça va commencer à promener, il va sortir, promener dans la rue et on va le chasser. 1800, pour la première fois, les presses qui ressemblent encore presque la même construction commencent à être faites en fer forgé. Et ils sont beaucoup plus lourds et ils n'ont pas besoin d'être attachés à l'édifice. À gauche, on voit en arrière l'homme avec les deux pouf, enfin, qui est responsable pour mettre l'encre sur la presse. Et avant lui, c'est le maître imprimeur qui va faire marcher la presse. Ici, avant, tout à fait en avant, il y a deux sections de la presse. Il y a une partie qui est ici en avant où il y avait le papier. Et le type, le caractère qui va faire l'impression. Et ça va être placé de façon que ça tourne pour que ça rentre dans le presse même et l'imprimeur prend le bâton et il fait l'impression comme ça. Normalement, ça prend deux tirées de bâton, le papier va rentrer en moitié. Et il va faire la pression et après ça, il va rentrer la deuxième moitié. Ça, c'est parce que la presse n'est pas suffisamment lourde pour faire tout ça sur le coup. Mais quand même, c'est suffisamment... quand une presse comme ça fonctionne bien, les gens travaillent bien, ils peuvent faire quand même à peu près 250 feuilles à l'heure. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de regarder dehors. Ils travaillent vraiment très fort. Je pense 200-250 feuilles à l'heure. Probablement, il y a un autre compositeur en arrière devant la fenêtre, mais ce n'est pas tout à fait certain qu'est-ce qu'il fait. Mais une imprimerie, ça ressemble ça, même après l'avant des presses en fer forgé, il se ressemble encore ça jusqu'à qu'on arrive à la mécanisation de la presse au 19e siècle. Mais ça prenait au moins trois personnes pour le faire fonctionner d'une façon efficace. Et après la pression est faite, le papier est sorti de la presse et s'est suspendu pour se sécher. Et un autre morceau de papier va être mis dans la presse. So, le papier est toujours humide pour que ça l'encre prenne comme il faut. C'est ça, de façon que ça fonctionne.
Merci à Richard Vire. Avant de terminer la première zone, je voudrais simplement dire quelques mots sur Chants fleuris de Geoffroy Toré. Il s'agit ici de l'édition originale de 1529. Ce livre est précieux à tellement d'égards, on pourrait en parler une heure, mais premièrement, Je crois que c'est intéressant de savoir qu'il y a deux livres dans l'exposition actuelle qui ont été montrés à l'exposition de Montreal Caxton Exhibition de 1877. En voici un. Ce livre était alors la propriété de l'École normale Jacques Cartier et lors de la fondation de l'UQAM, ce livre a été légué dans notre collection. Je vous montrerai plus tard le deuxième livre qui était aussi exposé en 1877. Ce livre est également important parce que Torrey, influencé par l'Italie, va diffuser beaucoup de lettrines avec des fonds noirs, enfin, un certain style de décoration, parce qu'on doit commencer à trouver une façon d'orner le livre imprimé. C'est aussi un typographe qui est curieux de créer des alphabets. Et il y a des alphabets fantastiques à la fin de ce livre. Et pour les linguistes, il y en a dans la salle, c'est lui qui proposa, mais sans l'appliquer dans ce livre, l'idée d'introduire dans la typographie de la langue française l'apostrophe, l'accent aigu et le cécédille. Mais il faut attendre l'adolescence clémentine de Marot en 1529 pour qu'on commence à appliquer ses recommandations. Nous allons passer maintenant à l'humanisme religieux. Dans la foulée de l'humanisme philologique, l'humanisme biblique suit un parcours semblable de ressourcement aux textes de l'Antiquité, mais chrétienne cette fois, qui implique l'étude des langues et de l'histoire biblique. À la différence seulement qu'au moment d'établir le texte et de le faire imprimer, les philologues font face au poids de la tradition qui refuse qu'on touche à la Bible, plus précisément au texte de la Vulgate attribué à saint Jérôme. Pour plusieurs, altérer ce texte revenait à altérer la parole inspirée. Erasme aura beau expliquer que si c'est Dieu qui a inspiré la Bible, ce sont des hommes qui l'ont transcrite. Son Novum Testamentum, œuvre d'érudition s'il en est, se heurte à l'auctoritas, c'est-à-dire l'autorité qui entoure la version de la Vulgate du texte sacré et n'échappe pas à la censure des collègues de la faculté de théologie de l'Université de Louvain, alors qu'au début on lui avait donné les permissions pour faire ce travail, qui le déclare coupable d'hérésie. Aussi, les exemplaires de son livre disponibles à Louvain ont été brûlés dans un autodafé ou lacérés de poignards comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez les petites marques ici sur la photo. Il y en a d'autres à droite. Si on pouvait tourner les pages du livre ici, vous verriez, pas celle-là par contre, vous verriez qu'il y a des marques de lacération presque sur deux tiers de ce livre. Malgré tout, les humanistes s'évertuent à retourner à la vérité latine, à la vérité grecque, à la vérité hébraïque du texte original, débarrassés des erreurs de traduction et de transmission des copistes, selon une politique éditoriale qui va justement éviter d'entourer le texte de glose comme au Moyen-Âge, mais va plutôt mettre les notes à la fin du texte ou même dans un volume séparé. On voulait faire respirer le texte et centrer le travail sur le texte plutôt que sur le commentaire. La Renaissance va donc connaître plusieurs éditions de la Bible et notre édition montre des éditions du Nouveau Testament tout seul, celle d'Erasme, de Robert Étienne, dont BANQ possède l'édition originale de 1546 et une autre de Théodore de Bèze. Ces éditions établies par les catholiques puis les protestants se font par le retour aux langues classiques, mais aussi aux langues de l'Antiquité chrétienne, l'hébreu, le syriaque pour les Bibles polyglottes. La plus célèbre est sans doute celle d'Anvers, qui fit la fortune des Plantins, et éditée en quatre langues par l'érudit Arias Montanus. La voici devant vous. S'ajoute un autre problème qui est celui de la traduction de la Bible en langue vernaculaire, qui dépasse largement la question de la philologie. C'était le rêve d'humanistes catholiques comme protestants de voir la Bible entre les mains de tous, hommes et femmes, et le message du Christ directement accessible à chacun. Par exemple, William Tyndale s'inspirera du Novum Testamentum d'Erasme pour la traduction anglaise de la Bible, mais Mal lui en prit, il dut fuir l'Angleterre, car le cardinal Wolsey n'acceptait aucune autre version que la Vulgate latine, car pour les catholiques, c'était au clergé à interpréter la Bible pour les fidèles. En revanche, les protestants soutenaient que la parole divine se suffisait à elle-même et n'avait pas besoin d'intermédiaire pour être comprise, comme l'illustre cette Bible dite de Genève, mais qu'on a imprimée dans d'autres villes, des villes françaises huguenotes comme celle-ci à La Rochelle. Plus tard, ce fut interdit aussi pour des raisons politiques. Je dis en passant à ceux qui s'intéressent à ces diverses éditions qu'Isabelle Crevier de BANQ va venir commenter quatre de ces Bibles exposées présentement lors de journées d'études des 13 et 14 avril organisées par BANQ et l'UQAM sur les livres de la Réforme et de la Contre-Réforme dans les collections montréalaises. À côté des Bibles, il y a aussi les écrits sur la doctrine religieuse. Et nous allons là de polémique en polémique. Aussi, j'invite à nouveau M. Richard Vire à commenter ce livre du roi Henri VIII contre Luther au moment où Henri VIII était encore catholique et je dirais avant Anne Boleyn. Et ensuite, cet autre écrit de Luther.
Merci encore. Mais pour la plupart d'entre nous, probablement Henri VIII est plus connu pour ses problèmes matrimoniaux que pour son théologie. Mais il y avait un moment avant que la crise des années 1530, quand il avait vraiment besoin d'un fils, il voulait vraiment un fils et ça commençait des problèmes de le problème de mariage et aussi il a rencontré une autre femme et on connaît un peu plus toute cette histoire-là. Mais en 1521, il a écrit cet livre sur les sept sacrements contre la doctrine de Luther. Et il y avait une deuxième édition en 1521. Qu'est-ce qui est intéressant avec la copie qu'on a ici? Mais il y a deux choses. Premièrement, ça fait partie de la collection de Robert Mackay, qui est un avocat montréalais au 19e siècle. Mais la deuxième chose qui est intéressante ici, c'est que c'était imprimé à Rome en 1543. Et l'année 1543, c'était une année quand même assez difficile en Angleterre. Il y avait deux ou trois choses qui se passaient influencer cette publication. Pour moi, c'était un effort pour l'Église catholique. C'était une question de propagande pour montrer que montrer qu'est-ce qui est arrivé avant Henri VIII. Parce que dans cette année de 1543, il y avait un acte du Parlement qui interdit punit les gens qui niaient le titre de le roi comme chef de l'Église. Il y avait aussi une question de une autre question ici. Il y avait un complot de certains chanoines de la cathédrale de Canterbury contre l'archevêque. Comme ça, c'était une période assez complexe dans l'histoire de l'Angleterre. Et il faut dire aussi que Henri VIII approche la fin de sa vie. Il va décider quatre ans plus tard. Dans le corps de... De quelle façon est-ce que je fais bouger? On passe trop de temps avec les livres anciens. Ah, oui, bon, OK, merci. Et ici, dans une autre image qui est vraiment une image de la réforme luthérienne qui monte Luther à droite et son patron, Frédéric III, dit le sage, électeur de Saxonie, en allemand, qui était le protecteur de Luther au début de la réforme. C'est vraiment une image qui parle beaucoup de la théologie de l'époque. Il a vu de Luther et ses patrons des princes allemands avec la centralité dans la pensée de Luther de la croix aussi. Ce livre ici, ça date de quoi? C'est 1520, ben, fin du siècle, mais c'est une image qu'on voit souvent sur les pages de titre de toutes les œuvres de Luther.
Merci, mon collègue Richard Vire. En réponse à la réforme protestante, les catholiques auront la contre-réforme. Il fallait faire quelque chose, non seulement en raison des protestants, mais en raison des demandes des catholiques eux-mêmes. Il y aura donc ce concile de Trente, dont les travaux vont s'étaler en trois périodes, 1545 à 1563. Plusieurs textes officiels sortiront de ce concile. L'Église va consacrer la Vulgate en 1546, mais avec des corrections. On va publier les canons et décrets du concile, par exemple sur le culte des saints, sur les sacrements. On va faire un catéchisme pour énoncer une fois pour toutes la position de l'Église sur la doctrine et les sacrements. Et on va instituer le fameux index des livres prohibés, où seront énumérés les livres en partie prohibés ou complètement censurés. Et comme vous le savez, l'index va continuer à être imprimé jusqu'à Vatican II, c'est-à-dire dans les années 1960. Je voudrais montrer ici un petit extrait du catéchisme sur une question très épineuse qui a fait couler beaucoup d'encre au XVIe siècle, qui est celle de la présence du Christ réel ou symbolique dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Vous verrez dans l'exposition, il y a plusieurs textes à ce sujet. Les polémiques ont été extrêmement vives sur cette question. Outre les livres sacrés, on va continuer pendant toute cette période à rééditer des ouvrages de dévotion et de spiritualité du Moyen-Âge, comme les livres d'heures, les Vitae Patrum, l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, dont on a vu la page de titre tout à l'heure avec la marque de l'imprimeur. Ce livre était important aussi pour le Québec, non seulement comme livre rare, parce qu'on lisait encore dans les années 1960 des extraits de l'Imitatio Christi dans les réfectoires des pensionnats. Mais il y a aussi des ouvrages de renouveau, comme les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, qui privilégient une piété intérieure plus personnelle. Je voudrais dire un mot aussi sur les Lauretanae Historiae Libri Quinque. L'exemplaire de l'UQAM n'a pas la page de titre, donc exceptionnellement, je montre une page de titre d'un exemplaire que m'a fourni ma collègue Joanne Biron d'une autre bibliothèque de Lyon. Ce livre fait partie de notre exposition et je dirais qu'il fait partie de notre histoire. Et tout cela, nous le savons grâce aux études très érudites de Joanne Biron sur ce livre. Grâce à elle, on comprend mieux ce qui s'est passé avec ce livre. Ce livre, vous voyez, simplement la page de titre nous montre qu'on est en pleine contre-réforme, période baroque. Ce livre de Torcellino explique le culte marial à Loreto en Italie au XVIe siècle. Les jésuites avaient beaucoup fait pour soutenir ce culte marial. Ce qui s'est passé, pourquoi l'importance de ce livre au Québec, c'est que au XVIIe siècle, le père Pierre-Joseph-Marie Chaumonneau, qui est né le 9 mars 1611, donc on célèbre son anniversaire bientôt, il a accompli une promesse qu'il avait formulée en 1637 au sanctuaire de Lorette en Italie de bâtir au Canada une chapelle sous le nom de Notre-Dame de Lorette et sur le plan de cette sainte maison à Loreto. Alors, l'exemplaire de ce livre, celui-là ou un autre, a vraisemblablement servi à donner les mesures, à décrire le contenu pour créer cette réplique de la chapelle à Notre-Dame de Lorette. Je profite de l'occasion, comme l'épreuve vient de sortir aujourd'hui, pour dire qu'il y aura un grand chapitre de Joan Biron dans cet ouvrage humaniste italien et imprimé de l'Italie de la Renaissance dans les collections de l'UQAM. Bon, l'épreuve sort aujourd'hui, c'était trop tentant de vous le montrer. Mais c'est une étude passionnante. Je voudrais revenir au livre de piété traditionnelle qui continue à circuler parce qu'on a la chance de montrer dans cette exposition un véritable manuscrit sur vélin, c'est-à-dire que il a été fait avec de la peau de mouton traitée, il est enluminé, il est peint à la main. Et si vous voulez, c'est un livre d'heures. Les livres d'heures, dans la dévotion des laïcs, étaient pour eux ce que le bréviaire était pour les curés, si vous voulez. Nous connaissons maintenant l'enlumineur de ce livre, c'est le maître des prélats bourguignons, qui a été identifié à l'occasion de cette exposition. C'est donc un enlumineur qui travaillait à Dijon et à Langres. Langres, c'est une ville intéressante pour nous, puisque c'est de là d'où vient Jeanne Mance, n'est-ce pas, cofondatrice avec Maisonneuve de Montréal. On voit d'ailleurs un magnifique bronze de Jeanne Mance devant la cathédrale de Langres. Donc, il travaillait pour les prélats de ces villes. J'aimerais commenter cette enluminure, qui est celle des rois mages, donc de l'épiphanie du 6 janvier, parce qu'on suivait le calendrier, elle montre ce qu'on faisait au 15e siècle. On n'avait pas encore le même souci historique qu'au 16e d'avoir les vêtements et l'architecture comme à l'époque du Christ. Donc, on a des maisons avec des colombages comme en Bourgogne et des rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, avec leur couronne, mais habillés en aristocrates du 15e. Et surtout, ils portent des chaussures à poulaines. Les chaussures à poulaines, avec ces bouts très longs, hein, ont été à la mode jusqu'en 1490 en France. Mais c'était une rage que de vouloir porter des chaussures à poulaines. Il a fallu des lois somptuaires. On permettait aux plus nobles de porter de très longs bouts, mais les moins nobles devaient se contenter de moins de centimètres, si vous voulez. Bien sûr, l'Église était contre. Pourquoi ? Elle craignait que ces bouts très longs puissent permettre aux jeunes hommes de soulever les robes des dames. Ensuite, on n'allait pas pouvoir s'agenouiller avec des chaussures si longues, mais cette rage était telle qu'il y avait même des armures de chevaliers avec des poulaines en métal, ce qui était vraiment pas commode pour monter à cheval, mais bon. Mais on voit bien que sur cette enluminure, c'est un peu un pied de nez aux craintes de l'Église, puisque le plus vieux des rois mages réussit quand même à s'agenouiller et à montrer sa dévotion à l'enfant Jésus. Je vous invite à revenir dans 2 mois pour voir ce manuscrit, puisque les conservatrices vont tourner les pages pour montrer une autre superbe enluminure, celle-ci, qui est intéressante parce qu'on a une bordure architecturale avec des niches qui montrent des scènes de la vie de la Vierge. Et on voit qu'avec cet écu, il y avait moyen de mettre, je crois que c'est C, mais on pouvait mettre ses lettres, son chiffre, quoi, pour personnaliser son livre d'heures. L'automne prochain, nous allons avoir une conférence ici uniquement sur les livres d'heures conservés au Québec, et en grande première mondiale, on va aussi montrer les tableaux des miniatures, si vous voulez, de Dimo Garcia, qui s'inspirent des miniatures conservées à Montréal, mais qui les repeint dans un décor montréalais. Donc nous pourrons vous faire partager cela. Je voudrais montrer un autre livre très précieux de cette exposition. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux livres qui avaient été montrés en 1877. Voici le deuxième. C'est un autre livre d'heures, mais il n'est pas manuscrit, mais il est imprimé, mais il cherche à ressembler le plus possible à un manuscrit. Ce livre appartenait en 1877 à un riche marchand de la ville de Québec. Il fait maintenant partie des collections de McGill. Ce livre illustre de manière éloquente le passage du livre manuscrit avec ses enluminures au livre imprimé avec ses gravures en noir et blanc, mais qu'on a repeint. Alors, il existe trois exemplaires de par le monde de ce livre. L'exemplaire de la Bibliothèque nationale à Paris est en noir et blanc seulement, ce qui est très utile pour la recherche parce qu'on voit exactement ce qu'il y avait dessous et on voit exactement ce qui a été refait. Parce que les enlumineurs, imaginez, enrageaient. Toute leur créativité était coupée, ils n'avaient plus qu'à colorier. C'était très difficile pour eux. Donc très souvent, on voit qu'ils changeaient les fonds, ils pouvaient ajouter un personnage, mais parfois ils respectaient aussi. Le troisième exemplaire est aussi peint, mais avec un chromatisme différent. Donc, on voit qu'on cherchait encore à personnaliser le livre selon les goûts et, je dirais, la bourse des acheteurs. On voit aussi qu'ici, on a ajouté une bordure, comme dans les manuscrits, avec quelques feuilles d'acanthe, puis un peu d'or bruni, et puis encore les initiales ici qui ont été peintes. Donc. Mais on a encore une sorte de croisée des chemins parce que excusez-moi, j'ai du mal avec le PowerPoint. On a un encadrement qui montre l'influence de la Renaissance italienne. Par contre, si on regarde dans le fond de cette scène de l'Annonciation, on voit Adam et Ève. Là, c'est encore un héritage du Moyen-Âge, cette façon typologique d'interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire Marie est la nouvelle Ève et le Christ est le nouvel Adam. Vous avez aussi observé un plus grand souci de perspective. On est en 1516 déjà sur cette illustration que dans le manuscrit. La perspective, ça va être une des passions de la Renaissance. Mais la question devient difficile parce que avec des tirages de 500 ou de 1000 exemplaires, on ne peut plus colorier, repeindre tous ces exemplaires. On ne fournit pas. Aussi, des grands artistes comme Hans Holbein ont vite compris le parti qu'il y avait à devenir illustrateur de livres en développant des styles de gravure en noir et blanc faits expressément pour le livre imprimé. Alors, voici une scène du paradis. Vous noterez que le serpent a une tête de femme. Nous passons maintenant à l'humanisme laïque dans notre volet 1. Les auteurs de la Renaissance, à commencer par Pétrarque, s'inspirent de genres et de thèmes des auteurs de l'Antiquité qu'ils imitent, qu'ils veulent dépasser, mais ils créent aussi. Ainsi, on pense au sonnet de Pétrarque. Ce sonnet, bien sûr, on pourrait montrer ces deux quatrains, ces deux tercets. Quand vous le verrez à l'exposition, on l'a ouvert sur une autre page, une page où on a recopié des poèmes parce que même les poèmes de Pétrarque ont été censurés. Bon, il est vrai qu'il critiquait la curie romaine, c'était un peu dangereux de le faire, mais il a fallu recopier ces poèmes parce qu'ils ont été censurés. Très souvent, les poèmes, on les voit imprimés en caractères italiques, caractères créés par Aldemanus et qu'on utilise toujours, mais parfois, on a aussi des caractères romains. Ce qui est intéressant ici, dans cette édition, c'est qu'on a entouré les sonnets presque d'une glose, comme pour la Bible, et en même temps, ça nous dit à quel point Pétrarque est institutionnalisé et considéré au XVIe siècle déjà comme un classique de la littérature, parce qu'on a ce goût de le commenter. Dans la poésie de la Renaissance, tous ne chantent pas quand même une Laura morte, idéalisée, quasi divinisée par Pétrarque. D'autres chantent les amours charnels de leurs amis bien en vie ou en rêve, comme le héros de Colonna dans le songe de Polyphile. Ce livre est précieux, bien sûr, pour son contenu littéraire, mais c'est aussi un livre imprimé par Aldemanus et pour cela, il a aussi une très grande valeur bibliophilique. D'autres poètes vont préférer célébrer le baiser à l'italienne, comme dans ce poème de Joachim du Bellay qui prie sa maîtresse de ne plus lui donner de baisers secs à la française, mais des baisers humides à l'italienne. Vous êtes invité à revenir le 17 mai pour écouter David Doré qui va traiter de poésie amoureuse pendant toute une soirée, poésie amoureuse de la Renaissance, en compagnie de l'ensemble musical Les Idées Heureuses consacré à la musique ancienne. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand on parle de poésie lyrique, c'est encore une poésie faite pour être chantée et accompagnée par la musique. La littérature est aussi un lieu d'invention, pas seulement d'imitation de l'Antiquité. Alors vous connaissez bien sûr en prose l'essai, qui est l'invention de Michel de Montaigne, même si on lui cherche toujours des précurseurs. Très vite, l'essai traverse la Manche. Bacon écrit aussi ses essais, ce qui va donner encore une diffusion plus grande à ce genre. On voit ici, c'est l'essai de l'amitié qui, bien sûr, s'inspirait de l'essai 1.28 de l'amitié de Michel de Montaigne, qui lui-même s'inspirait des Cicérons, des Plutarques et de sa propre expérience avec de la Boétie, bien sûr, sur l'amitié. Cette édition de Shakespeare de Richard II est très précieuse. C'est la seule édition du XVIe siècle de Shakespeare qu'on trouve à Montréal. Et je pense que ce petit passage sur les larmes est très délicat et très précieux, puisque dans la scène 4 de l'acte 3 de cette tragédie, la reine refuse de se laisser divertir par sa dame de compagnie. Elle préférerait voir pleurer celle-ci, ce à quoi la dame rétorque « Je pleurerais, madame, si cela pouvait vous faire du bien », retenant ainsi ses larmes de compassion, mais c'est nous renvoyer à toute cette théorie des larmes qu'avait le Moyen-Âge et que retenait encore la Renaissance. On ne faisait pas que pleurer. Il y avait toute une catégorie de larmes. On pouvait avoir les larmes de contrition, de pénitence, de compassion, c'est-à-dire au sens étymologique souffrir avec, et bien sûr aller jusqu'aux larmes de suavité des mystiques. Et c'est les mystiques, comment on savait qu'ils étaient mystiques? C'est que lorsqu'ils pleuraient, leur visage n'était pas ravagé et rougi par les larmes, d'accord? Ça devait être considéré comme une preuve. Bon. Face à cette floraison littéraire imprégnée de l'idée de la liberté de l'homme, certains s'interrogent pour savoir si les femmes, tant chantées dans les poésies d'amour, ont connu, elles aussi, une renaissance. Dans leur cas, la Renaissance est encore à se disputer sur leur nature, fondamentalement bonne ou mauvaise, et leur capacité à apprendre. Et alors qu'on discute pour les garçons du meilleur programme, avec latin, avec grec, ou quoi d'autre, maniement des armes, je ne sais quoi, et qu'on veut les former selon l'esprit des arts libéraux, on se demande si il vaut mieux apprendre ou non aux filles à lire. En effet, quelle que soit la question, la morale vient freiner les possibilités d'épanouissement intellectuel des filles, sauf pour une petite élite qui a accès à une véritable éducation humaniste, comme la fille de Thomas More, par exemple, Margaret Roper, qui pouvait traduire le latin, mais qui ne mettait pas son nom dans la traduction, un peu comme les apôtres Viduam, parce que ça ne convenait pas à la modestie d'une femme de se mettre devant. On a donc, au cours de la querelle des femmes, ça va commencer au XVe siècle avec la Cité des Dames de Christine de Pizan qui réagit aux attaques misogynes du roman de La Rose, de la partie de Jean de Main. Il va y avoir des champions pour et contre les femmes. Alors, on a ici le livre de la grandeur et de l'excellence des femmes au-dessus des hommes. Bon, alors... l'Allemand Agrippa von Nettesheim a écrit une œuvre qui avait fait scandale en 1529 en considérant que les femmes étaient supérieures aux femmes, pensez donc. De son côté, l'Espagnol Juan Vives va reconnaître aux femmes le droit de lire, mais il leur impose sa liste d'œuvres à lire et à proscrire. Surtout pas Tristan et Iseut, encore moins Lancelot du Lac, ses romans de chevalerie de Chrétien de Troyes. Qui met l'amour au centre de tout. Du côté des adversaires, je pensais qu'il fallait quand même montrer dans l'exposition un livre misogyne pour voir pourquoi les femmes sentaient le besoin d'avoir des champions et d'être défendues. Alors, il y a ce livre du français Gratien Dupont qui, à ma grande surprise, a été réédité. Il se porte à la défense du sexe masculin et dans ce passage, il se moque des grosses femmes, mais en même temps, il nous apprend une pratique de la vie quotidienne de l'époque, ce qu'il se moque des femmes grasses qui portent des éponges déodorantes sous les aisselles et entre les jambes pour ne pas puer et pour le dire en ces mots, pour ne pas sentir l'épaule de mouton. Et il ajoute aussi « ne pas sentir l'épaule de mouton ou le fagonas et telle senteur infâme ». Bon, le fagonas, je l'ai cherché pour vous, c'est la transpiration. Voilà. Bon. Plus réaliste, certains, comme l'Italien Marinello, qui est aussi médecin, livrent aux femmes les secrets de l'apanage que personne ne leur dispute, la beauté. Il leur donne des recettes pour faire des parfums, dont un au jasmin, qu'on fabrique à nouveau à Venise. Les femmes ne sont pourtant pas absentes de notre exposition. Cette page de titre, je crois, nous dit beaucoup de choses. Le Décaméron, 1348, Jean Boccace, à l'occasion de la peste de Florence, des jeunes gens s'éloignent de la ville pour passer le temps, se racontent des histoires pendant 10 jours, 100 histoires, ça va devenir le Décaméron. En 1414, Laurent de Premierfait fait la première traduction française du Décaméron, puis au XVIe siècle, Marguerite de Navarre commande une traduction auprès d'Antoine Lemasson du Décaméron, ce qui va donner beaucoup, je dirais, de succès à la circulation et à la diffusion des recueils de nouvelles qui vraiment fleurissent en France au XVIe siècle. Et surtout, ça va inspirer une œuvre à Marguerite de Navarre qui est l'Heptaméron. Elle voulait écrire un Décaméron français, mais la mort l'a surprise avant, après 72 nouvelles, et c'est pour cela qu'on a appelé ça l'Heptaméron. Autre point intéressant, c'est une autre de nos veuves qui a imprimé ce livre, c'est la veuve de François Regnault, 1556. Elle a aussi un nom, c'est Madeleine Boursette. Alors, nous commençons la zone 4, historiographie et sciences politiques humanistes. Alors, l'histoire va renouveler les méthodes aussi, ces méthodes grâce au retour aux textes des historiens de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi juive. Si les éditions renaissantes remettent ces auteurs anciens à l'honneur en faisant état de nouveaux manuscrits qui sont découverts et désormais édités selon les méthodes de la philologie humaniste, elles font aussi circuler plusieurs façons de concevoir et de rédiger l'histoire, dont celle d'Hérodote, de Suétone, de Tite Live, de Tacite, de Flavius Joseph, pour ne nommer que ceux-là. Comme dans les autres disciplines renouvelées par les humanistes, on prend ses distances aussi avec les textes d'histoire du Moyen-Âge. On adopte une attitude plus critique face aux sources écrites. On veut éliminer les interventions du surnaturel. Et les historiens sont aussi intéressés par l'archéologie et à la chronologie plus serrée des événements. Alors, on a ici cette page titre de l'histoire d'Hérodote. On retrouve notre ami Laurent Vallat, Yannick Auberger et Geneviève Proux. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Yannick. Oui, bon, si elle veut se lever. Oui. Alors, oui, Yannick a déjà étudié tous les liens entre les savants de Laurent Vallat en hein? Oui, oui, oui. Mais je voulais dire que Yannick est invité à présenter une séance uniquement sur les historiens qui seront présentés. Elle est spécialiste de l'Antiquité grecque et romaine. Donc, vous pourrez avoir une compréhension vraiment profonde du renouvellement des historiens de l'Antiquité à la Renaissance. On a aussi, on vous montre une édition de Tite Live. Et puis, une autre question se posait à la Renaissance, qui va écrire l'histoire nationale? Étienne Jodel, par exemple, est encore très fâché dans un poème qu'il écrit pourtant dans les pièces liminaires de la traduction de l'histoire de Paul Émile, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on a fait venir un Italien en 1499, le roi l'a considéré comme historien royal, pour écrire l'histoire de la monarchie française, voyez. Bon, donc c'est une difficulté ici. Est-ce qu'il faut être français pour écrire l'histoire française? Bon. Ensuite, il y a d'autres ouvrages d'histoire qui seront montrés qui relèvent peut-être plus de ce qu'on appellerait maintenant de l'histoire locale. C'est celui de Poldo d'Albenas qui travaille, si vous voulez, Nîmes et les environs de Nîmes. Donc, on voit ici une magnifique gravure pliée du pont du Gard. Et ces travaux, si vous voulez, sont un peu liés à l'archéologie et à l'histoire. Bien sûr, l'exposition ne serait pas complète sans les œuvres de Machiavel, donc elles seront présentes et Yannick Auberger vous parlera de tout cela. Sur l'humanisme scientifique maintenant. L'humanisme scientifique qui sera présenté dans 6 mois présente une palette extrêmement variée et extrêmement riche. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les scientifiques ont vite compris l'importance de l'illustration pour diffuser leurs inventions, pour enseigner ce qu'ils avaient créé ou proposé aux étudiants ou au grand public. Et c'est intéressant de voir la vitesse avec laquelle les inventions circulent. Bien sûr, parfois, c'est grâce à la lingua franca qui est le latin, mais aussi à cette habitude du tour universitaire. Ainsi, on va voir tout à l'heure que Gessner, le Suisse Conrad Gessner, va étudier auprès de Guillaume Rondelet, le spécialiste des poissons à Montpellier, et du coup, son propre livre va être très proche de celui de Rondelet. Bon, alors, L'humanisme scientifique, bien sûr, fait comme pour les autres, le retour au texte classique de l'Antiquité gréco-romaine, qui va souvent de pair avec ceux de la tradition arabe médiévale, tout particulièrement dans le domaine de la médecine et de l'astronomie. Signe des temps, une question persiste. Les anciens avaient-ils tout découvert? Ne restait-il qu'aux hommes de la Renaissance qu'à redécouvrir leurs savoirs et leurs inventions, à comparer les avis d'Hippocrate à ceux de Galien? Par exemple, le Nouveau Monde était-il vraiment neuf? Et si c'était tout simplement l'Atlantide engloutie dont Platon avait parlé? Mais le fait est que les savants de la Renaissance éditent et corrigent les textes de l'Antiquité, comme André Vézal pour le savoir anatomique de Galien. Mais il y a des oppositions à leur travail. L'Église qui résiste aux dissections et les tenants de Galien qui refusent de changer leur vue. Ce serait s'avouer vaincu aussi. Il reste que l'année 1543 marque un tournant pour la science avec l'ouvrage de Copernic sur l'astronomie et la théorie de l'héliocentrisme à laquelle l'Église préfère le système de Ptolémée et celui de Vézal aussi, paru en 1543, l'humaine fabrique. La page de titre de son traité manifeste sa modernité. On a ici le professeur, on voit Vézal ici, son nom, Vésalius, qui pratique une dissection en public, c'est-à-dire non pas clandestinement, mais devant tous et pour des raisons pédagogiques. On peut aussi admirer de son livre une magnifique planche anatomique du système musculaire. Dans un autre ouvrage qui sera montré de Scipio Mercurio, c'est un gynécologue italien, ce médecin, qu'est-ce que cette femme fait? Elle se prépare à accoucher parce que c'est une femme grasse et il avait essayé de penser à des méthodes d'accouchement pour les femmes grasses. Comme vous le savez, on n'a pas toujours accouché étendu sur un lit. C'est assez récent de faire cela. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a une sage-femme ici. Plus on va avancer dans le temps, moins on va voir les sages-femmes et plus de médecins sur les gravures. Il y a plusieurs livres intéressants à montrer sur l'architecture entre art et science qui jouit d'un immense prestige et d'un engouement sans précédent avec les modèles d'architecture romaine du traité de Vitruve qui alimente de manière dynamique le génie créateur des architectes de la Renaissance italienne qui sont épris de beauté, d'harmonie et dont l'influence va se faire sentir non seulement en Europe mais en Amérique aussi. Et tout à l'heure, je vous ai montré une scène du baiser tirée du songe de Polyphile de Colonna. Voici une autre scène du même livre parce que le héros a non seulement des rêves amoureux, mais aussi des rêves architecturaux, ce qui est très rare dans l'histoire de la littérature. Et il se désole des monuments de l'Antiquité en ruine, mais en même temps, il se passionne pour, et on a ici des illustrations qui sont à la fois inspirées d'Alberti, un des grands architectes de la Renaissance, lui-même inspiré de l'architecte de l'Antiquité Vitruve. Un autre livre très intéressant est celui-ci de Cousin, où on voit le lien entre géométrie et architecture, donc les sciences fondamentales, si vous voulez. Il y a aussi cette magnifique gravure pliée d'un livre de Juste Lips, où on voit l'intérêt entre archéologie et architecture, où il voulait décrire tous les amphithéâtres anciens. Et ce livre de Philippe Delorme m'a beaucoup intéressée par sa préface. Il insiste sur les principes d'intégrité de l'architecte qui sont, permettez-moi de le citer, « pour garder l'esprit libre et éviter d'être outragé et calomnié, de ne jamais manier autre argent que le sien, afin de n'être redevable qu'à soi et de refuser les cadeaux pour garder sa liberté. » L'auteur qui a décrit et commenté plusieurs modèles architecturaux inspirés de l'Antiquité de la Renaissance va nous montre ici sa propre maison et très fière de dire qu'elle est fort aisée et il s'est fait faire cette maison à Paris sur ses plans. L'art de naviguer aussi est très important. Les découvreurs partent astrolabe de mer en main, mais il est intéressant de voir que pour eux, l'astrolabe sert à mesurer aussi la profondeur des puits. On a ici un autre livre en noir et blanc, donc vous voyez qui a été colorié à l'aquarelle, même la gravure, la marque de l'imprimeur avec ses cupidons. Voici un autre usage de l'astrolabe pour mesurer les profondeurs. Et les découvreurs et aussi ceux qui rapportent les voyages des autres. Voyez, ici on a le livre d'André Thévet. Et si vous regardez la marginalia ici à droite imprimée, on nous montre comment les Canadiens, c'est bien écrit, les Canadiens chassent le cerf et autres bêtes sauvages, d'accord? Et vous voyez que la forme des raquettes, elle est un peu différente de maintenant. Et il y a les piques et les lances avec lesquelles. On est beaucoup intéressé par les thèmes de la chasse. On a trouvé pour l'exposition des livres la chasse au Québec, en Nouvelle-France, la chasse aussi à Terre-Neuve, des cétacés. Et comme vous voyez ici, on nous montre comment attraper les crocodiles en Floride. Bon. Je vous ai parlé de la science des poissons, de la gravure. Pour eux, c'est le livre de Guillaume Rondelet qui est considéré comme le père de la science des poissons. Il était professeur à Montpellier. Conrad Gessner a suivi ses cours. On va trouver plusieurs, de l'influence. Mais il va écrire son livre en allemand. On commence aussi à écrire des livres scientifiques dans les langues vernaculaires. Ambroise Paré, par exemple, le grand médecin, écrit en français. Il y a un autre nom là, mais qui m'échappe. J'ai voulu montrer cette page de Gessner. Vous allez dire, mais c'est pas les débuts de la modernité avec un poisson évêque et un poisson chevalier. On trouve les mêmes images dans Rondelet. C'est que nous sommes au début de la modernité du monde scientifique et de temps en temps, ces scientifiques ont une petite rechute dans le bestiaire médiéval fantastique. Ainsi, Rondelet, qui est impeccablement pragmatique, observe la science, a un petit chapitre sur les sirènes en disant « Je n'en ai pas vu, mais un matelot que je connais m'a dit en avoir vu monter une sur le pont d'un bateau. » On ne pouvait pas encore renoncer complètement à cette belle légende. Donc voilà, une petite rechute là dans le Moyen-Âge. Ce magnifique livre de Belon, de Pierre Belon, sur les oiseaux est précieux non seulement pour les gravures, mais aussi pour la méthodologie. Bien sûr qu'il retourne au livre de l'Antiquité, sur les oiseaux, mais il nous dit aussi dans sa préface qu'il a trouvé des oiseaux inconnus de l'Antiquité et aux Européens et que les voyageurs en Amérique lui ont rapporté. Donc il y avait des grands voyages comme ça où on ramenait des spécimens de la flore, de la faune pour ouvrir justement la connaissance du monde. Les sciences métallurgiques aussi progressent. On a le livre d'Agricola sur les mines. Cette image permet de voir que les femmes travaillaient aux mines et d'autres images, mais je n'ai pas pu prendre cette autre photo. On voit aussi qu'il y avait des enfants très jeunes qui travaillaient dans les mines. Donc, progrès peut-être du côté scientifique, mais sur le plan social, il y a un décalage. Je voudrais terminer sur une image de Montréal, plutôt Hochelaga, en 1535. tiré de l'ouvrage de Giovanni Battista Ramuzio de 1565, mais en fait la première édition était de Venise en 1550 sur les navigations et les voyages. Donc c'est une sorte d'anthologie, si vous voulez. Donc il y avait un chapitre sur le voyage de Jacques Cartier. Et sur l'illustration, eh bien, on voit ici Jacques Cartier tout heureux, les Indiens encore heureux de voir Jacques Cartier le 2 octobre 1535. Et je ne sais pas si je peux remontrer l'image, mais on a ce qu'on considère comme la première image officielle, en tout cas, du Mont-Royal, mais qui s'appelle alors sur... Je vous prie d'excuser ma technique qui n'est pas au point. Voilà. J'ose pas toucher, mais si vous voyez à gauche, on voit Monte Real. Donc, c'est notre Mont Royal avec des animaux sauvages qui le gravissent. Voilà, le Mont Royal. Et on voit aussi... les maisons à l'intérieur où on a dessiné schématiquement un feu. Chaque maison avait un feu pour faire la cuisine. Donc, voilà de Hochelaga à Montréal. Les livres de la Renaissance nous font voyager. Je vous remercie de votre attention. S'il y avait des questions faciles, on pourrait répondre à une ou deux. Alors, il faut aller voir les livres et nous donner vos réactions devant cette exposition. Et nous espérons qu'il ne faudra pas attendre encore 150 ans avant qu'il y ait une autre exposition sur les livres de la Renaissance. Merci encore. Merci.